Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, Chérubin Dorcil et Morgane Guériec en direct de Washington. Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, meurtre d'un ministre palestinien en Cisjordanie. L'ONU réclame une enquête rapide et transparente.
Nigeria, qui affrontera Goodluck Jonathan à la présidentielle de 2015. L'opposition est en conclave à Lagos pour choisir son candidat.
Au Bénin, des milliers de manifestants réclament l'organisation des élections prévues depuis 2 ans déjà.
Nous sommes très 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 contents et nous estimons que c'est un message fort que nous venons de délivrer au nom du peuple béninois à Port-Novo.
Arrestation de l'ancien chef rebelle tchadien Babalade en Centrafrique par les casques bleus de l'ONU.
Ici aux États-Unis, démocrates et républicains s'entendent sur un projet de budget pour le gouvernement fédéral.
Et nous aurons notre page économique, bien sûr, les sports et la musique, mais d'abord, le journal.
Attentat suicide dans le nord du Nigeria. 2 femmes portant le hijab se sont fait exploser sur un marché de canaux. On compte au moins 4 personnes tuées, selon la police citée par l'AFP. Le secrétaire du syndicat des commerçants affirme que les kamikazes étaient âgés de 17 et 18 ans. Par ailleurs, le principal parti d'opposition, le Congrès progressiste, est réuni à Lagos, pour choisir son porte-drapeau à la présidentielle de février 2015. Lionel Gaïma.
Le vote de délégués de l'APC se tient dans un stade de Lagos, fief de l'opposition. Il y a les 5 candidats à ces primaires, dont l'ex-dictateur Muhammadu Buhari et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. M. Buhari, 71 ans, a été candidat lors des 3 dernières présidentielles. Ce général à la retraite, au pouvoir entre 1983 et 1985, a fait de la corruption et de l'insécurité ses 2 thèmes de campagne. Dans le même temps, le Parti démocratique populaire au pouvoir tient son congrès à Abuja, la capitale, pour ratifier la candidature de Goodluck Jonathan à sa propre succession au scrutin de février 2015. Le président sortant est très critiqué pour sa gestion de l'insurrection des islamistes de Boko Haram, qui contrôle des pans entiers dans le nord-est du pays.
L'ancien chef rebelle tchadien Abdelkader Babalade a été arrêté en Centrafrique par les casques bleus dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la MINUSCA, selon une source au sein des forces internationales. Babalade était à la tête d'une 40aine d'hommes lourdement armés et il se faisait passer pour un officier de l'ex-Seleka, espérant bénéficier de mesures de confiance accordées à l'ex-rébellion centrafricaine qui avait pris le pouvoir en 2013 à Bangui avant d'en être chassé début 2014. Revenu à la légalité dans son pays, Babalade a même été nommé préfet du département de la Grande Sido dans le sud du Tchad par décret présidentiel en juillet 2014. Mais démis de ses fonctions fin novembre, il s'est enfui, signale l'AFP, à nouveau en direction de la Centrafrique voisine et était depuis lors recherché par les autorités tchadiennes. Il vient donc d'être arrêté.
Massacre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le combat contre les auteurs des tueries sera long. Tel est l'avertissement de Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU au Congo. Nous l'écoutons.
Je condamne fermement ces terroristes. Nous devons mettre fin à cette terreur. Je comprends votre colère, mais nous devons rester unis. Certaines personnes ont lancé des pierres contre les hélicoptères de la MONUSCO, venus évacuer 2 enfants gravement blessés lors des attaques. À cause de cet acte insensé et égoïste, ces enfants ne peuvent pas être soignés convenablement. Je ne saurais comprendre les agressions contre la MONUSCO. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO, mais ce sont ces personnes qui tuent les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Sans votre soutien, il n'y aura pas de paix. Soyons unis contre la terreur.
Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU au Congo. Rappelons que plus de 250 personnes sont mortes dans la région de Beni depuis le début du mois d'octobre.
Bénin, manifestation à Porto Novo pour réclamer l'organisation des élections. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation des élections municipales et cantonales initialement prévues en 2013. On écoute Augustin Awanwebla, député du Parti du Renouveau démocratique, à l'origine de la manifestation.
Nous sommes très 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 contents et nous estimons que c'est un message fort que nous venons de délivrer au nom du peuple béninois à Porto Novo et ce serait pareil à Cotonou demain. car les deux soucis majeurs pour lesquels nous nous manifestons sont et principalement le fait qu'il n'y ait pas la tenue en période régulière des élections en République du Bénin.
Augustin Awanvouébla, député PRD, joint par Nicolas Pinault. Demain, il a dit, un grand rassemblement est prévu à Cotonou.
Manifestation à Yaoundé, au Cameroun, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Des dizaines de personnes ont protesté contre la récente adoption d'une loi antiterroriste jugée et liberticide d'après l'AFP. Et c'est dans ce contexte que le président Paul Biya a présidé son premier conseil des ministres depuis 2 ans.
Premier convoi de Nigériens reconduits d'Algérie, plus de 300 clandestins, des enfants et des femmes pour la plupart, sont arrivés hier soir à Arlit, dans le nord du Niger. C'est ce que disent les autorités locales citées par l'AFP. Au total, quelques 3000 migrants devraient être rapatriés de l'Algérie.
Au Burkina Faso, Jean-Claude Dioma est le nouveau ministre de la Culture. C'est ce qu'annonce l'AFP, qui tient cette information de source officielle. Il a été nommé pour remplacer Adama Sagnon, récemment contraint de démissionner sous la pression de la société civile après moins de 48 heures.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un ministre palestinien est mort aujourd'hui après des heurts avec les troupes israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. Jean-Roger Bian.
Ziad Abu Zein, c'est le nom du ministre, est décédé peu après les affrontements qui ont eu lieu dans la région de Tormus, Aya. Selon les témoins, les troupes israéliennes ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants et ont battu certains d'entre eux avec les crosses de carabine. Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié l'incident d'attaque brutale et d'acte barbare. M. Abbas s'est dit engagé à prendre des mesures nécessaires après une enquête. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yalon, a exprimé ses regrets et annoncé l'ouverture d'une enquête. L'Union européenne a également demandé une enquête immédiate et indépendante sur les circonstances de la mort du ministre Ziad Abu Zein.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé aujourd'hui à Israël de mener une enquête rapide et transparente sur les circonstances de la mort brutale du ministre palestinien Ziad Abu Zein dans des heurts avec des soldats israéliens, note l'AFP. Monsieur Ban Ki-moon, cité par son porte-parole Stéphane Dujarric, appelle toutes les parties prenantes à faire preuve du maximum de retenue et à éviter une escalade des violences, indique l'agence de presse.
Sachez aussi qu'un adolescent palestinien a été très grièvement blessé à la tête par un tir de l'armée israélienne ce mercredi lors de heurts dans le camp de réfugiés de Jelazoun en Cisjordanie. C'est ce qu'indiquent des responsables palestiniens de la sécurité et des secours. Après avoir reçu sur place des soins d'un médecin de l'armée israélienne, le garçon de 14 ans a été hospitalisé à Ramallah dans un hôpital, bien sûr.
Malala Yousafzai, la plus jeune lauréate de l'histoire du prix Nobel de la paix, a déclaré aujourd'hui qu'elle s'engageait davantage dans son combat pour l'éducation des enfants. Elle a reçu ce mercredi, conjointement avec l'Indien Kailash Satyarthi, le prix Nobel de la paix. Bagessikora.
Oui, malgré son jeune âge et les menaces persistantes des talibans, Malala Yousafzai s'est une nouvelle fois engagée à poursuivre son combat pour que tous les enfants aillent à l'école. L'adolescente a promis de faire encore plus que ce qu'elle a déjà accompli. « Je continuerai ce combat jusqu'à ce que je voie tous les enfants à l'école », a-t-elle affirmé. Le coloréat est allé dans le même sens. Kailash Satyarthi, fondateur de l'organisation Bashpan Bashao Andolan, mouvement pour sauver l'enfance, a sauvé du travail près de 80 000 enfants des usines et ateliers. Je refuse d'accepter que le monde soit trop pauvre quand une seule semaine de dépenses militaires mondiales suffirait à mettre tous nos enfants dans des classes. Je refuse d'accepter que les chaînes de l'esclavage soient plus fortes que la quête de liberté, a indiqué Satyarthi. Selon les Nations Unies, près de 58 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés, tandis que l'Organisation internationale du travail chiffre à 168 millions le nombre d'enfants forcés de travailler à travers le monde.
Dans l'est de l'Ukraine, soldats du gouvernement et rebelles pro-russes semblent respecter la trêve annoncée hier mardi. Seulement, des coups de feu sporadiques ont été signalés. Si ce calme prévaut, les deux parties ont promis de déplacer leur armement lourd en deçà d'une zone tampon, loin de la ligne de front. Des pourparlers devraient débuter vendredi à Minsk, Bélarus. Et ici, aux États-Unis, les dirigeants de la Chambre des représentants, démocrates et républicains, se sont mis d'accord sur un projet de budget fédéral de plus de 1 000 milliards de dollars.
ce qui permettrait le financement des opérations du gouvernement jusqu'au mois de septembre 2015. La seule exception, le département de la sécurité intérieure, qui n'obtiendrait des fonds que pour environ 2 mois. Les Républicains veulent utiliser cette manœuvre pour limiter l'application du décret pris récemment par le président Obama en faveur des immigrés sans papiers.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco aujourd'hui avec Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir. Les États-Unis ont mis en garde l'Ouganda par rapport à sa législation contre les homosexuels, soulignant qu'elle nuisait à son économie en repoussant les investisseurs. La question n'est pas seulement controversée, elle a aussi rongé la croissance économique, a dit l'ambassadeur américain en Ouganda, Scott DeLisi, à une délégation américaine de promotion des affaires en Afrique, soulignant que des investisseurs étaient revenus sur leur choix de faire de l'Ouganda un partenaire.
Mais en août, la Cour constitutionnelle ougandaise avait invalidé le projet de loi durcissant les peines pour les homosexuels.
Oui, pour une question de procédure, mais le parti au pouvoir a rédigé un nouveau texte sur lequel le Parlement devrait se prononcer avant la fin de l'année. Le projet met l'accent sur la lutte contre la promotion de l'homosexualité. Toutefois, la ministre ougandaise du Commerce, Amelia Kyambadé, a assuré à la délégation américaine que l'Ouganda trouverait un terrain d'entente.
Le président ougandais Yoweri Museveni a déjà soufflé aux parlementaires de réfléchir aux conséquences économiques de l'adoption d'une nouvelle loi anti-homosexualité.
Oui, et pour rappeler une anecdote, l'on se souvient que l'automne dernier, un hôtel au Texas avait annulé la réservation d'une chambre pour M. Museveni, qui prévoyait alors un voyage d'affaires pour l'exploitation de potentielles réserves pétrolières dans son pays. L'économie mondiale va croître de plus de 3% en 2015 et 2016 selon le rapport annuel de l'ONU publié ce mercredi. C'est ce que je vous dirai pour terminer ce bulletin sur l'économie.
Voilà.
Merci Nathalie Barge. On passe le micro à Bagassi Koura qui est prêt pour la page sport. Et pour commencer Bagassi, on va parler de la 6e journée de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, bonsoir Chiroubé. C'est tout à l'heure en Europe avec donc cette rencontre très très attendue entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. L'Ajax d'Amsterdam affronte l'APOEL Nicosie. Chelsea rencontre le Sporting Lisbonne. Et puis il y a aussi cette rencontre entre Maribor et Schalke 04. FC Porto affronte le Shakhtar Donetsk. Et enfin, l'Athletic Bilbao joue contre le Bate Borisov.
Et au niveau de l'Europa League, c'est aussi la 6e journée de la phase des groupes?
Oui, c'est la 6e journée, bien sûr, dans cette compétition. Dans le groupe A, Mönchengladbach affronte Zurich. Villarreal est en déplacement à Apollo Limassol. Le groupe B, le FC Bruges, joue contre Helsinki. Le FC Copenhague affronte Torino. Et dans le groupe C, le Partizan de Belgrade va en découdre avec Asteras Tripoli. Beşiktaş joue contre Tottenham dans le groupe D. Salzbourg affronte Astra. Également, match entre le Dynamo Zagreb et le Celtic Glasgow. Dans le groupe E, le PSV Eindhoven de Pays-Bas donc joue contre le Dynamo Moscou. Et Panathinaikos d'Athènes joue contre Estoril d'Espagne. Le groupe F, enfin, Niprotepros joue contre Saint-Étienne, je m'excuse, monsieur. Karabakh affronte l'Inter Milan.
Et on se rend au Maroc pour la Coupe du Monde des clubs.
Oui, le Maghreb des Tottiens ouvre ce mercredi soir les hostilités de la compétition. Les champions du Maroc affrontent les Néo-Zélandais d'Auckland City pour une place donc en quart de finale où ils défieront les Sétif.
Et pour terminer cette page sport Bagassi Koura, quelques résultats de la NBA.
Oui, cette défaite de nos amis de Toronto qui ont perdu donc face à Cleveland 105-101. Portland a battu Détroit 98-86. Dallas est tombé face à Memphis 114-106. Les Knicks de New York sont tombés face donc au New Orleans 104-93 et Milwaukee est tombé également face à OKC, Oklahoma City, 114-101.
Voilà les sports préparés et présentés ce soir par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcy et Morgan Guerriac en votre compagnie pour cette édition du 10 décembre. Place au dossier du jour, à commencer par la Journée mondiale des droits de l'homme et le phénomène de l'esclavage en Mauritanie, Morgan.
Une vingtaine de militants anti-esclavagistes sont sous les verrous depuis un mois en Mauritanie. Idriss Fall a joint dans sa prison à Rosso Obraïm Oul Abeid, leader du mouvement pour la résurgence abolitionniste ou IRA Mauritanie.
Bientôt un mois, parce que nous avons été arrêtés depuis le 11 novembre. Nos chefs d'inculpation ont changé à trois reprises. Le premier chef d'inculpation, c'était la participation à une caravane non autorisée. Après une journée, les enquêteurs sont revenus sur ce chef d'inculpation pour nous accuser d'autres accusations très dures comme l'apostasie, l'atteinte au sacré, l'incitation à la haine raciale, l'incitation à la guerre civile. Après deux jours d'enquête, il y a un colonel de la gendarmerie qui est venu de Nouakchott, qui est encore revenu sur toutes ces accusations. Il a pris, ramassé tous les papiers, les a déchirés. Et il nous a accusés de nouveaux chefs d'inculpation, participation à un rassemblement non autorisé, direction, participation à une organisation non autorisée.
Et vous êtes dans assez bonnes conditions, si on vous permet de garder votre téléphone, non?
Non, ça c'est une situation exceptionnelle qui n'a jamais existé de mémoire de prisonniers. Et c'est spécifique à moi et à moi seul. Les autorités, il y a une semaine, ils sont venus me dire que je dois avoir un téléphone. Je ne peux jamais dire que c'est dans mon intérêt personnel seulement parce que je peux rentrer en contact avec ma famille. Mais certainement, eux aussi, ils ont des intérêts difficiles.
Vous êtes combien de militants actuellement en détention à Rosso?
À Rosso, nous sommes 8, à Nouakchott, nous sommes 12.
L'esclavage en Mauritanie, un état des lieux?
20% des populations mauritaniennes sont toujours des esclaves, c'est-à-dire des esclaves domestiques qui n'ont pas le droit à l'éducation, qui n'ont pas le droit au papier d'état civil, qui travaillent sans repos, sans salaire, sans soins.
On croit qu'il y avait une loi qui interdisait une telle pratique, non?
La loi existe, mais elle n'est pas destinée à l'application. Elle est toujours appliquée à l'envers, c'est-à-dire que c'est toujours des anti-esclavagistes qui partent en prison. Les esclavagistes sont protégés par les juges.
Voilà, c'était Brahim Ould Abeid, leader du mouvement pour la résurgence abolitionniste ou IRA Mauritanie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le diamant centrafricain. Comment est-il un enjeu entre les différentes factions en Centrafrique? Bagassi Koura nous proposera des reportages et témoignages pour mieux cerner le sujet. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU.
En Côte d'Ivoire, les élections de 2015 approchent à grands pas et les politiques sont à la manœuvre pour leur position. Le président Alassane Dramane Ouattara est candidat pour un deuxième mandat, mais qui seront ses adversaires? On assiste, Morgan, à un jeu de coudes au sein du FPI, le Front Populaire Ivoirien, principal parti d'opposition, mais aussi au sein du PDCI, pourtant membre de la coalition au pouvoir. Et on va démêler tout ça avec Jean-Roger Bion, journaliste à La Voix de l'Amérique.
Oui, c'est la bagarre au sein du FPI. Le président Pascal Afingessan y recourt à la justice pour faire reporter son propre congrès. Pourquoi a-t-il fallu en arriver là?
Oui, le quatrième congrès du Front Populaire Ivoirien, le FPI, c'est l'ex-parti au pouvoir donc, qui devait s'ouvrir demain jeudi au Palais des Sports d'Abidjan a été remis à plus tard. D'autres parlent de calendrier grec. Le torchon brûle donc entre Afingessan, qui est le président statutaire du FPI actuellement, et le comité de contrôle qui valide les candidatures à la présidence du parti. Le principal enjeu du congrès est de désigner le président du parti et en filigrane celui qui va affronter le président Ouattara en 2015 lors de l'élection présidentielle. Afi est candidat à sa propre succession, mais aussi Laurent Gbagbo, prisonnier à la CPI, est candidat. Le président Afi recuse cette candidature particulière, mais il a en face de lui l'appareil du FPI qui le voue aux gémonies et l'accuse de vendre le parti de Laurent Gbagbo à Ouattara. Le débat entre pro-Gbagbo et les partisans d'Afi est si bruyant qu'il menace le parti d'implosion.
Alors, Jean-Roger Bion, peut-on dire que le report du Congrès par la justice est consommé?
Le comité de contrôle qui se prévaut d'une prérogative exclusive en la matière apparemment n'a pas accepté la décision de justice. Son président Sébastien Daron Guégué a fait savoir que si un candidat ou celui qui le représente ne vient pas, il sera déclaré forfait, c'est-à-dire qu'il maintient le congrès demain. Le FPI attend 6000 délégués. Il faut la moitié de ce nombre, 3001 donc, pour que le quorum soit atteint. Attendons demain pour voir.
Alors Jean-Roger, hein, le tumulte, ce n'est pas seulement au sein de l'opposition. Il y a des lézards au sein de la coalition au pouvoir.
Oui, c'est la preuve que la saison politique est vraiment ouverte en Côte d'Ivoire. Charles Konan Bani, ancien Premier ministre, cadre du PDCI, vient aujourd'hui même de déposer sa candidature pour la présidentielle de 2015. Monsieur Bani, vous le savez, est le troisième cadre du PDCI à manifester sa candidature après celle de l'ex-ministre des Affaires étrangères Issi Amara et du député Bertin Konan Kwadio dit Kakabé. Ses déclarations de candidature rament à contre-courant de l'appel du chef du parti, Henri Konan Bédé, qui avait lancé solennellement depuis le 17 septembre dernier un appel à tous les militants et sympathisants du PDCI ainsi qu'à toutes les formations membres du Rassemblement des Oufouettistes, le RHDP, a soutenu une candidature unique, celle du président Ouattara pour les échéances de 2015.
Alors la question demeure, est-ce que le PDCI va soutenir Ouattara ou est-ce que le PDCI va avoir son propre candidat l'année prochaine? On ne sait pas.
Chacun des trois candidats se déclare candidat du PDCI.
Ce remue-ménage avant les échéances, devrait-il être considéré comme un essor de la démocratie en Côte d'Ivoire?
Oui, si cela se fait dans les règles de l'art, sans violence et sans effusion de sang. La Côte d'Ivoire, vous le savez, sort d'une décennie de guerre civile et vous savez comment ça s'est terminé. L'année qui arrive sera capitale pour jauger le retour de la Côte d'Ivoire dans le giron des nations, disons, fréquentables.
Merci, Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Les Maliens ne sont pas contents de la libération de deux terroristes en contrepartie de celle de l'otage français Serge Lazarevitch. Les Bamakois, dans leur majorité, demandent au gouvernement des explications. Alors que les organisations de droits de l'homme veulent saisir d'autres juridictions et leur demander de se pencher sur les dossiers des terroristes arrêtés au Mali. On fait le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Les autorités maliennes n'ont pas caché leur joie après la libération de l'otage français. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine.
Je voudrais d'abord exprimer notre soulagement en tant que gouvernement du Mali suite à la libération de l'otage français, Serge Lazarevitch, et exprimer notre satisfaction par rapport à ça et notre joie en tant que dernier otage français détenu et qui puisse regagner sa famille. Et nous voudrions vraiment féliciter la coopération des services maliens qui ont travaillé avec leurs homologues français et nigériens pour pouvoir arriver à ce résultat.
Le président de l'Association malienne des droits de l'homme n'est pas du tout content de cette libération, surtout du terroriste Wadou Sen, Maître Mokhtar Mariko.
Moi, je vous dis qu'on est vraiment indignés par cette libération parce que nous ne la comprenons pas du tout. Nous ne pouvons pas comprendre. Le monde entier est en train d'organiser une lutte farouche contre les terroristes, mais au Mali, on les libère. Là, on ne comprend pas du tout cela. Voilà pourquoi on est indigné. Et nous interpellons le gouvernement du Mali afin qu'il fasse la lumière sur ces conditions de libération. Parce que le peuple malien a besoin de savoir la vérité, toute la vérité sur cette libération. Et récemment, ce monsieur a tiré sur un garde, M. Soufara, devant la prison centrale de Bamako. Comment peut-on libérer ce genre d'individus?
Dans les rues de Bamako, bon nombre de Maliens s'interrogent sur les conditions de libération de cet otage.
Moi, je me demande pourquoi libérer trois terroristes contre un Français. C'est pas normal. C'est parce qu'il y a un manque d'autorité.
La libération de Wadi Sen, moi, je n'ai pas trop bien compris. Parce que lui, il a tiré sur des gens, sur des militaires. Et il y a eu même des victimes. Donc, il ne doit pas rester impuni. On comprend par ce tact-là que ça a été un échange. C'est pas bon pour notre nation.
Je trouve que si c'est un moyen, ça fait partie des moyens pour faire venir la paix dans notre pays. Mais Je ne vois pas pourquoi s'inquiéter. Un terroriste, il n'est pas dit que quand on est terroriste, on doit tuer tous les terroristes comme ça. C'est pas ça. Et il y a une raison pour sa libération.
Certains Maliens pensent aujourd'hui qu'il a été libéré et que c'est une occasion pour la France de financer indirectement les groupes terroristes qui évoluent dans le nord du Mali.
Et Serge a été libéré en contrepartie de trois autres rebelles. Donc vous voyez ce que ça fait.
On prend jamais les Américains, on prend pas les Russes, mais c'est tout le temps des Français. C'est parce que c'est eux qui donnent de l'argent contre ces personnes-là. C'est une manière de financer la rébellion, mais en cachette. Parce qu'à cause d'une seule personne, tu peux pas donner le salaire de toute la France.
En tout cas, les organisations des droits de l'homme comptent amener le dossier des terroristes dans d'autres juridictions, afin que justice soit rendue au nom du peuple malien. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et avant de mettre fin à cette édition, Morgane Guériac, revoyons les principaux éléments de l'actualité.
Attentat suicide dans le nord du Nigeria. Deux femmes portant le hijab se sont fait exploser sur un marché de Kano. On compte au moins 4 personnes tuées.
L'ancien chef rebelle tchadien Abdelkader Babalade a été arrêté en Centrafrique par les casques bleus dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé la force de l'ONU, la MINUSCA.
Législative à l'île Maurice, plus de 900 000 électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Les résultats devrait être connu demain. La Cour pénale internationale a saisi aujourd'hui le Conseil de sécurité des Nations unies pour obtenir l'extradition de Saïf el-Islam, le fils du défunt dictateur libyen Muammar Kadhafi. Actuellement détenu en Libye, il est soupçonné de crimes contre l'humanité.
Le Zimbabwe a un nouveau vice-président. D'après l'AFP, il s'agit d'Emerson Mnangagwa, ministre de la Justice et ancien chef de la police secrète. Nommé par le président Robert Mugabe, vice-président de son parti, la ZANU-PF, il devient automatiquement le numéro 2 de l'État. Emerson Mnangagwa est donc en position de favori pour succéder au président Robert Mugabe, âgé de 90 ans.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. L'animateur, auteur, compositeur, producteur, chanteur d'origine antillaise, Claudie Ciard, sera notre invité dans le RM Show ce soir. Dans ses chansons, Claudie parle souvent d'amour, engagement et revendications politiques et historiques. Mais évidemment, dans une ambiance zouk, raga et R&B, dégustons un avant-goût dans Ma Dignité. Claudie Ciard a grandi à Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne, avec une mère infirmière et un père chauffeur de bus. Engagé pour la cause africaine, il lance le concept de la génération consciente et bon nombre de chefs d'État, d'hommes politiques et représentants des ONG louent son travail et son influence auprès de la jeunesse africaine. Je me suis souvent... Voilà, c'était Claudie Ciard qui sera notre invité dans le RM Show ce soir, les amis. Ne ratez pas, c'était la chanson Ma Dignité.
Merci Roger.
Ben, c'est moi qui vous remercie, Morgane. À plus. Ne pas cesser d'y
penser, affronter tous les dents. Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel. Je n'ai jamais croisé le mien, trop de chagrin, quelques victoires sur des chemins illusoires. Dans ma mémoire résonnent les cris des gens d'ici. J'en oublie toutes mes envies. Pour eux je donnerai ma vie. Moi fils de Cornelia et de François, dont les ancêtres furent déportés d'Africa. Sur quelle terre devrais-je me sentir chez moi? Pour quel futur, pour quelle culture je me bats? Ma dignité, ma dignité.
Ici prend fin Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde de cette édition a été assurée par Lionel Gaïma, assisté de Peter Handley à la console technique.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'est Morgane Guériac et Chérubin Dorsil.